des optimistes, et dans son avocat, on peut être attaché à la même. La loi, c'est pas un endroit. Et c'est un endroit. Ok, on aime bien venir, on sait que c'est ici que tiennent les séances plénières du Parlement européen, le traité dispose de 12 sessions par an ici au Parlement de Strasbourg, et donc c'est une de ces 12 semaines à l'heure, cette semaine, où nous votons ce qu'on a fait. Merci beaucoup d'abord pour votre attention. Et pas seulement du numérique infrastructure, mais également des usages induits, notamment avec des objets connectés, etc. Mais voilà, vous connaissez ça par cœur, mais ça donne des éléments. Depuis, il existe une d'ailleurs de la DEP, je crois, qui existe, une autre étude, pour revoir un peu d'ailleurs ce qu'on avait sorti dans cette étude. Je pense que c'est important, évidemment, qu'on ait ces moments d'échange, parce que je crois que le monde politique en général, sous-évalue complètement l'impact du numérique sur l'ensemble des domaines d'activité de la société, que ce soit l'organisation des espaces publics, le respect de la vie privée, l'usage des matières premières, etc. etc. Et ici, au Parlement européen, dans l'institution, on entend très souvent dans les éléments de langage, dans la façon de porter le discours, le fait de dire transition écologique, transition numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comme si naturellement, l'usage du numérique était un allié mécanique de la transition écologique, ce qui n'est pas le cas, non seulement sur les aspects purement environnementaux, mais sur également d'autres aspects qui sont au moins aussi importants, je dis bien bon, sur l'aspect de la vie, etc., etc. Et en fait, ce qu'on essaye, le groupe vert, dont je fais partie, on essaie d'apporter des éléments d'analyse et de réflexion là-dessus en essayant de dire attention, le numérique n'a pas besoin d'infrastructures et ces infrastructures, comme une autoroute, comme une voie de chemin de fer, comme toutes les infrastructures, organisent ces structures de fonctionnement de la société. Il en est du numérique comme les autres infrastructures et il faut avoir à l'esprit cette réalité. Il y a aussi des impacts, tout ce que j'ai évoqué, qui sont vraiment au cœur de la réflexion de l'Union européenne sur la question de la souveraineté et des questions géopolitiques. Le développement de l'économie en lien avec ces impacts fondamentaux en termes de besoin de matières premières. Donc là, il y a quand même un risque de voir les ressorts sur lesquels s'appuyer la géopolitique du fossile se renouveler, se reconduire avec la géopolitique. Qu'est-ce qu'on considère comme des tributaires d'autres modèles mis en œuvre d'utilisation du numérique et par les liens de droite et qui seraient condamnés en quantité s'aligner sur les demandes chinoises ou la fonctionnalité des placements d'économie carbone et aux États-Unis pour discuter avec les autorités américaines.
notamment aux services publics, etc. etc. C'est sous couvert de numérisation et de numérique, c'est moins d'accessibilité à des présences humaines, etc., etc., pour régler un certain nombre de sujets. Donc voilà, merci d'être là pour débattre et discuter de ces sujets. Moi, je suis vraiment très heureux qu'on pousse la réflexion là-dessus. Je pense qu'on a du mal à faire entendre la complexité et les implications fondamentales que ce nouveau monde est en train de faire peser sur nos sociétés, sur nos démocraties et sur les citoyennes et les citoyens. Il y a un peu quand même une espèce de poudre magique, les clouds, les licornes, on est dans le monde merveilleux, onirique, du numérique. Il y a quand même, et d'ailleurs, c'est un champ lexical qui est évidemment utilisé aussi par les GAFAM pour nous faire rêver autour de ça. Derrière ce rêve, il y a ce qu'on appelle les externalités négatives qu'il faut appréhender avec lucidité, si on veut que le numérique apporte le meilleur sans sa part sombre. Donc, encore merci. Et écoute, madame la vice-présidente, à vous.
Merci beaucoup, David. Merci de nous accueillir, effectivement, dans ta belle maison. Merci aussi à ton équipe qui a été merveilleuse pour cette organisation pas simple. Donc, en particulier, Narmin et Alex, un grand merci à vous. On sent qu'on avance. Voilà. Et il faut le dire, quand on est à Strasbourg, on a évidemment la chance d'avoir le Parlement européen, les institutions européennes, parce qu'il n'y a pas que le Parlement, mais on a cette chance-là, cette proximité. Néanmoins, si on n'entre pas en contact, si on ne crée pas des moments comme ça, eh bien, on passe à côté de vers Alliance Libre Européenne, qui répond.
Et pirates, puisqu'on a les pirates.
Tout à fait, ils sont effectivement dans cette partie Alliance Libre Européenne. Donc on a vraiment un groupe avec qui, et c'est moi, en tant que vice-présidente de l'Eurométropole en charge du numérique, c'est le seul groupe avec qui j'arrive à parler de ces questions, parce qu'il y a une véritable compréhension des enjeux. Donc je le disais, on a besoin de coopération et d'inspiration au niveau français. C'est finalement déjà ce qu'on a fait, cette première marche qu'on a prise pour nous, collectivités, mettre en place les stratégies numériques. Voilà. Donc la stratégie numérique responsable à Strasbourg, elle est aussi le fruit d'une coopération avec Marseille, avec Montpellier, avec Nantes, Grenoble, Lyon, Bordeaux. Voilà. Donc on a travaillé quand même beaucoup ensemble pour faire en sorte que le numérique ne soit pas qu'une question de sobriété, mais soit une question de responsabilité. Ça veut dire sobriété. Tu en as parlé à l'instant. Et hier, on a eu un grand moment quand même dans la conférence inaugurale, une présentation de l'association Génération Lumière, dont Dorélia est encore avec nous aujourd'hui, merci. Et donc sur l'extractivité, en fait, sur d'où viennent ces matériaux et ces terres rares et comment est-ce qu'on les sort de terre et dans quelles conditions dans quelles conditions inhumaines parfois on les exploite. Donc on a une vraie question matérielle, on n'est pas du tout dans l'immatériel quand on parle de numérique, et puis il y a la question de la solidarité, des solidarités numériques, de l'inclusion numérique, de l'égalité aussi de genre dans le numérique. On le voit bien sur les questions algorithmiques, comment on peut avoir des perceptions différentes selon que l'on soit genré homme ou femme. Et puis, les libertés numériques, parce que, je le redis ici, le numérique est quand même un formidable outil d'émancipation. Et ça, lorsque surtout on est au cœur de l'Europe, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de liberté d'expression s'il n'y a pas aujourd'hui l'Internet comme moyen d'exprimer en fait ses opinions, d'où l'importance de garder un Internet libre. Donc ça, c'était quelques mots sur la manière dont on conçoit le numérique et dont nous, collectivités françaises, on a essayé de le concevoir ensemble. Puis à un moment, on se dit, mais bon sang, y a pas... en Europe, il y a quand même beaucoup de choses qui sont belles, qui se font bien, qui sont vertueuses par des gens qui ont compris que le numérique était un outil formidable et qu'il fallait non seulement faire en sorte qu'il soit partagé par tous, mais qu'on le porte au plus haut niveau. Et donc l'idée est venue d'avoir ce temps un peu pour célébrer les régions d'Europe et faire en sorte qu'on puisse parler de ces exemples vertueux. Donc c'est de cette manière qu'on a conçu avec ton équipe l'envie de faire témoigner, puisque c'est vraiment une forme de témoignage. Rachel Vafidis qui est en ligne aujourd'hui et qui est, je vous laisserai vous présenter chacun en vos grades et qualités plus précises, mais qui est échevine de la Bruyère en Belgique et qui est en charge de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, des mobilités, un beau portefeuille. Et ensuite, on parlera, si elle n'a pas de problème de connexion, puisque je crois que c'était un petit peu le cas juste avant, avec Ana Maria Alvarez Rodriguez qui est conseillère à Madrid et qui est en charge de la numérisation des villes. Et puis Christophe Hugon, donc, qui est conseiller municipal de Marseille, en charge du numérique, de l'open data, de beaucoup de choses. Là encore, tu auras l'occasion de décrire tes multiples délégations. Donc en fait, on a ces trois exemples-là sur lesquels on a envie de mettre de la lumière. Je ne vais pas être plus longue à ce stade, puisqu'il m'appartiendra ensuite de faire la conclusion de nos échanges. Donc je vais vous passer la parole. Est-ce que Rachel est en ligne et disposée à prendre la parole si les conditions techniques sont réunies?
Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend parfaitement. Merci, merci beaucoup d'être en ligne. Je vous passe la parole. Merci.
Merci. Et voilà, je m'appelle Rachel Vafidis et comme vous l'avez dit, je suis échevine dans une toute petite commune rurale en Belgique qui s'appelle La Bruyère. Et donc, je vous remercie tout d'abord de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer parce qu'il est vrai qu'on entend souvent ces problèmes du numérique pour des grandes villes. Et ici, bah, donner la parole à quelqu'un qui vient d'une petite commune rurale, eh bien, c'est pas fréquent. Donc, merci. Je ne vais pas m'étendre plus longuement sur mon curriculum vitae. Je vais passer directement justement à ces quelques exemples que nous avons mis en place ici à la commune de La Bruyère afin justement de rendre plus responsable le numérique en règle générale. Donc, peut-être. Vraiment zéro investissement en termes financiers, c'est plutôt un investissement humain pour les localités, pour les communes et municipalités. Et donc, je voudrais simplement lancer un petit message aux élus locaux qui nous écoutent. C'est vraiment à nous de donner l'impulsion, tout simplement. Et une fois que l'impulsion est lancée, ben, on se rend compte que notre personnel communal, il est super motivé et il est prêt à se retrousser les manches et à nous aider dans ce genre d'initiative. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Je constate avec joie cette manière d'embarquer en fait positivement la collectivité. Et ce que je garde en tête pour l'instant, c'est cet élan d'éducation, en fait, d'éducation populaire au numérique. Tous les outils que vous proposez, en réalité, vous les proposez de telle manière à ce que chacun puisse les prendre en main. Et je trouve ça effectivement assez formidable. On va continuer, puis j'aurais évidemment envie de revenir sur cette question d'éducation populaire au numérique, qui, je crois, est vraiment au cœur de beaucoup de nos préoccupations pour faire évoluer favorablement les choses. Et j'aimerais qu'on passe la parole maintenant à Anna Maria, si c'est... Non, hein, pas pour l'instant. Il y a un peu... Les aléas du direct, un petit souci technique. Mais nous avons une carte maîtresse à vous dévoiler à présent, en la personne de Christophe Hugon. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir trop de problèmes techniques pour te passer la parole.
Non, normalement, je suis bien connecté, là.
Oui, ça va, voilà, ça
passe
ça.
Bien. Merci,
quoi,
Corinne.
Je t'en prie.
Pour cette introduction, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Hugon, élu à la ville de Marseille sur les questions numériques. Alors, j'ai une délégation qui est un petit peu longue. Il y a le système d'information, il y a la transition numérique, mais surtout, il y a le numérique responsable dans ma délégation. En réalité, par rapport au travail qu'a introduit Caroline avec les autres collectivités, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, numérique responsable à la ville de Marseille? Ça veut dire prendre en considération les enjeux, tous les enjeux qui ont déjà été un petit peu abordés ici, donc d'accessibilité, de solidarité, de transparence, etc., de les prendre en compte et de faire des arbitrages. Finalement, c'est de prendre la responsabilité politique du numérique. Arrêtez de considérer que ce n'est qu'un outil technique à laisser un petit peu flotter, un petit peu nébuleux, n'est qu'un levier à la transformation publique et au système économique, et aller un peu plus loin et de politiser ça. Donc c'est dans cette optique-là que dans la ville de Marseille, on a pris plusieurs délibérations autour de ça, et j'aimerais me pencher sur un sujet, une partie qui est assez importante, qui est plutôt entre l'éthique, mais aussi dans le partage, finalement, l'accessibilité à la donnée, c'est les questions autour de l'open data. Donc l'open data, c'est l'ouverture des données, mais aussi des documents administratifs des collectivités et des États. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important autour de la vulgarisation de comment fonctionnent les collectivités, mais aussi de la transparence, de l'accessibilité et démocratique. Finalement, c'est un outil de contrôle citoyen autour de l'action publique. Alors, une loi existe qui est pour une république numérique qui a été votée en 2016 et qui encadre un petit peu tout ça. En réalité, techniquement, dans le cadre de certaines limites légales, de respect de la vie privée, mais aussi de secret industriel, en réalité, les collectivités, les pouvoirs publics doivent rendre publiable tout document administratif ou toute donnée d'intérêt public. L'une des limites de cet exercice, c'est que les données ou les documents doivent déjà être disponibles. Si elles n'existent pas au préalable, c'est au bon vouloir de soit la collectivité, soit l'État, etc. Alors, à la ville de Marseille, pour aller un petit peu plus loin que quelque chose de mécanique, quelque chose de purement technique, parce que comme je l'ai dit avant, on peut parler d'une volonté politique autour de cette transparence et autour de ces outils-là, on a mis en place une commission, une nouvelle commission, qui s'appelle la commission communication et ouverture des données. Cette commission réunissant les membres techniques de la ville de Marseille, les services juridiques, mais aussi les politiques concernées. L'idée étant derrière de connaître le cadre légal, le minimum qu'on devrait faire et le maximum qu'on peut faire, puisque comme je vous ai expliqué, il y a malgré tout des limites. Les services techniques qui vont donner un coût à cette production sortie donnée, si c'est déjà disponible dans la qualité, c'est un coût très léger. Maintenant, s'il faut produire des documents, produire des données et les mettre en qualité, là, il y a déjà un coût supplémentaire. Et donc, on voit qu'il y a déjà un arbitrage vis-à-vis de la volonté politique qu'il peut y avoir en fonction des informations et des données. Est-ce qu'on va investir plutôt, parce que les budgets sont forcément limités, investir plutôt sur l'ouverture d'une partie des données, je ne sais pas, sur les bureaux de proximité ou plutôt sur les données parquet-jardin. Je dis au hasard, Et donc c'est pour ça que la facette politique pour nous était assez importante, introduire un petit peu cet arbitrage et cette représentation démocratique, parce que techniquement, en réalité, les personnalités élues par le peuple, eh bien, ce sont effectivement les élus eux-mêmes. Alors, jusqu'à aujourd'hui, c'est une mécanique qui a été un petit peu rajoutée. Donc, il y a une grosse médiation auprès des politiques et auprès du système, finalement, une partie du système, je dirais, qui n'était pas conscient et qui n'était pas vraiment habitué à cette mécanique-là. Donc, ça commence par un ralentissement, mais l'objectif de ce genre de mécanique, c'est d'aller plus loin et de produire, finalement, de produire plus que le minimum légal et que ce que la loi obligerait aux services à faire a priori. Quel impact ça a le numérique, quel impact ça a à l'intérieur? À l'extérieur, je l'ai un peu développé, c'est la transparence, le contrôle, la démocratie. Mais au sein de l'institution elle-même, c'est un impact assez fort, un impact qui s'est largement vu à la ville de Marseille et qui est très très intéressant. C'est dans la transformation des services. La réalité, c'est que la donnée, lorsqu'elle doit être rendue publique, elle doit être d'une qualité supérieure, a priori, que l'usage professionnel. Je vous donne un exemple simple. On a ouvert les données lampadaires, je reviendrai dessus, sur la ville de Marseille, donc géolocalisée. Imaginons un agent de la ville qui doit changer une ampoule d'un lampadaire, et il y a une erreur de géolocalisation, on va dire de 5 à 10 mètres. C'est pas très grave. L'agent ne va pas dire « Ah non, je dois faire 5 pas de plus, je change pas l'ampoule ». Donc c'est opérationnel à l'échelle du métier, et donc la qualité de la donnée est suffisante. Maintenant, si c'est ouvert au public et que c'est pour un autre usage, notamment, un exemple que je développerai plus tard, essayez de mesurer la distance entre les lampadaires et les arbres pour voir quels arbres sont trop exposés à la lumière artificielle. Là, 5 ou 10 mètres, c'est très significatif. Ça n'a plus de sens si on n'est pas au niveau de qualité de données nécessaire pour pouvoir dire ça. Et il y a des milliers d'exemples. La réalité de l'ouverture des données, c'est que l'usage final est difficile à anticiper. Et donc, on est un petit peu obligé de rentrer tout de suite dans une qualité de données qui est souvent supérieure à la qualité originale. Donc, le premier impact, c'est que ça a un coût a priori, mais la ville dispose de données de meilleure qualité. Et de plus, pour ne pas avoir à faire un travail, un second passage systématiquement sur toutes les données lorsqu'on les rafraîchit, eh bien on demande au service de directement avoir une qualité de données suffisante. Mais les services se posent la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose qui change, on changerait quelque chose qui fonctionne? Eh bien l'explication c'est, ben oui, mais la donnée va devenir publique, elle va servir à ça et ça, elle sera partagée avec les autres services, et là soudainement, la donnée prend un sens supplémentaire. Ce n'est pas juste un outil opérationnel au centre du service lui-même et qui se limite au service, c'est il y a un intérêt qui va au-delà. On expose un petit peu son travail, mais dans un intérêt soit public, soit de fonctionnement au sein de la collectivité elle-même. Donc ça donne un sens supplémentaire au travail d'alimentation de la donnée. Et c'est là où on va avoir une transformation, on l'a vu, des données qui n'étaient pas forcément indispensables. On va prendre l'exemple des arrêtés géolocalisés. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre la géolocalisation sur les arrêtés en plus de l'adresse. Les services, systématiquement, ne le faisaient pas pour certains arrêtés, parce que dans l'usage professionnel, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Aujourd'hui, c'est devenu systématique, parce qu'ils savent que ça va être diffusé, ils savent que ça va être utilisé par les autres services, et ça rajoute un sens. Et donc, la donnée devient soudainement structurante sur la qualité du travail, sur les enjeux, sur le sens du métier de l'administration. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On ne l'avait pas vu venir, on en a fait quelques conférences d'ailleurs. Et donc, c'est le côté un petit peu immergé de l'iceberg, mais bénéfique, disons. Pour cet exemple, donc, l'ouverture des données lampadaires, c'était très intéressant parce que je me suis retrouvé par hasard dans une discussion avec des associations qui justement souhaitaient faire un petit peu ce hackathon, Hack for Nature, autour des arbres et des lampadaires. Donc l'idée de cette association, c'était de réussir à mesurer la mise en exposition des arbres par rapport à la lumière artificielle de nuit. Alors si vous vous promenez en été dans les villes et que vous constatez effectivement qu'il y a des lampadaires qui peuvent parfois être très très proches des arbres, vous verrez que la canopée n'est pas de la même qualité. En réalité, le côté lampadaire sera toujours de moins bonne qualité que le côté opposé. Et donc, ils discutaient de comment faire un petit peu des cartographies, des cartoparties pour obtenir ces lampadaires, etc. Et c'est là où j'ai dit, bon, ben, je vais voir côté ville, qu'est-ce qu'on peut avoir comme données. Il y a eu cette mise en qualité et cette diffusion. Et pour la suite, aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de travailler à comment avoir une géolocalisation précise, une qualification précise des arbres pour compléter ces informations-là, parce que pour le moment, ça a utilisé notamment les données OpenStreetMap, c'est-à-dire ce qui a été fait par Cartoparty, etc. Et donc, un nouveau projet est enclenché au sein de la ville pour avoir finalement des informations plus précises et plus complètes sur nos arbres, c'est-à-dire que il existait déjà des registres et une façon de fonctionner un petit peu à l'ancienne, un peu crayon-papier. Mais pourquoi passer à autre chose? Ça va améliorer la qualité de service de la ville. Et les services de la ville ont réalisé que ce type de données, en fait, c'était hyper utile grâce à ce hackathon. Et c'est là où, finalement, on va pouvoir passer un petit peu au niveau supérieur dans un service qui est le parquet jardin. Et on va, voilà, il y a les appels d'offres, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour avoir un référencement exhaustif des arbres de la ville de Marseille. Et donc, c'est dans ces perspectives-là. L'open data, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'une ouverture de principe. Si on le pense politiquement, si on mène une réflexion autour de ça, on peut aller plus loin dans la transformation, on peut aller plus loin dans la transparence, plus loin dans la démocratisation des données, etc. Donc on pourrait continuer un petit peu plus loin, parce que dans l'accessibilité, il y a aussi la problématique de la cartographie, pour que ce soit plus accessible, de l'analyse de données simplifiée avec des graphiques, croiser les données, etc., de manière accessible. Ça, c'est un travail qu'on mène notamment à Open Data France, dans lequel je suis vice-président justement sur ces sujets-là. Mais bon, si j'ai bien compris, on n'avait pas une heure et demie, on n'avait que 10 minutes, un quart d'heure par discussion. Donc je peux un peu continuer. Alors on continue, c'est tant mieux. Donc ça, c'est l'effet un petit peu intérieur et de principe. Maintenant, si on veut que ça ait réellement un effet, donc je rebondis sur ce que j'étais en train de dire, il faut que cette donnée soit accessible, mais au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'un tableur, finalement, même si lorsqu'on a un minimum de compétences, on peut en faire beaucoup de choses, on peut croiser soi-même les données avec d'autres données open data, on peut faire des analyses statistiques, etc., lorsqu'on a les compétences, si on ne les a pas, on ne peut rien en faire. Et ça, en soi, c'est une problématique. C'est une problématique d'accessibilité, de solidarité numérique, de transparence pour tous. C'est extrêmement important. Et donc, avec Open Data France notamment, mais aussi avec la région sud à Marseille, c'est une conséquence des engagements qui ont été pris par Open Data France d'ailleurs. L'idée, c'est que, au lieu de ne fournir que le tableur, on fournit les outils de base qui permettent de faire une première analyse utile aux citoyens. Donc, quand c'est géolocalisé, avoir par défaut la cartographie de tous les arbres, la cartographie de tous les lampadaires, pour cet exemple-là, des écoles, la cartographie de la carte scolaire, un petit peu toutes les données qui sont réunies sur cette plateforme DataSud ou data.gouv.fr, mais aussi une analyse statistique. Par exemple, sur la plateforme qu'on utilise à la ville de Marseille, on peut faire un graphique qui donne les subventions, le niveau de subvention par association donné par la ville de Marseille, et le mettre en graphique, leur donner, le classer, etc. Et l'objectif, ce serait d'avoir réellement des outils faciles d'accès qui permettraient de faire des comparaisons entre villes, des comparaisons entre données, ou de les combiner de manière à ce qu'il y ait un accès un petit peu plus simple et un petit peu plus pour tous, de ces données-là. Donc, avec Open Data France, on fait les Culture Day, on a des outils qui sont disponibles d'ailleurs pour toutes les collectivités, hein, c'est extrêmement intéressant. N'hésitez surtout pas à piocher dedans, c'est fait pour. Il y a pas mal de choses. Est-ce que j'ai encore du temps? Parce que moi, je peux continuer très très longtemps.
Alors, ma proposition, c'était peut-être de passer la parole à la salle, s'il y avait déjà des questions sur l'exposé de Christophe.
Thank you. Merci pour l'exposé. J'aurais juste une question par rapport à l'open data et de l'exemple que vous avez donné, la localisation des arbres que vous preniez initialement d'OpenStreetMap, qui s'était avérée pas assez précise, et que finalement, de ce que j'ai compris, vous avez fait en interne à la ville de Marseille un relevé plus précis des arbres. C'est ça?
Alors, c'est l'objectif. Voilà, c'est encore. Alors, ce n'est pas que les données d'OpenStreetMap ne sont pas assez précises, c'est que elles sont pas encore exhaustives, malgré tous les efforts de la communauté qui est très forte à Marseille, et d'ailleurs que je salue si jamais ils nous regardent. On a eu le State of the Map à Marseille il n'y a pas longtemps. Elles sont pas forcément exhaustives, parce que c'est un travail énorme, hein, c'est une très très grande ville, hein, traverser la ville de Marseille, c'est faire la distance ex-Marseille, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. C'est une ville qui est très peu dense, finalement, très très étendue. Et puis surtout, elle n'a pas forcément toutes les informations utiles pour les services parquet jardin. Il y a ça aussi. Alors, on peut mettre l'espèce, mais on ne peut pas mettre la taille de la canopée, on ne peut pas mettre l'état de santé, on ne peut pas avoir un historique de l'entretien, typiquement.
Du coup, ma question, c'était, est-ce que vous avez, dans votre démarche Open Data, réfléchi au retour éventuel de ces
Oui.
données vers des bases partagées comme OpenStreetMap, par exemple?
Alors la réponse est tout simplement oui. Et d'ailleurs, c'est déjà quelque chose sur lequel on essaye de travailler depuis un certain temps, avec notamment l'association OSM Data, qui est une autre cartographie plus exhaustive de toutes les données OpenStreetMap, sur lesquelles on peut voir les lampadaires, leur couleur, leur intensité. C'est assez sympa. L'idée, c'est effectivement d'avoir un petit peu un script, hein, pour utiliser un terme un peu plus technique, qui est capable de transformer les données un peu format ville vers des données digérables par OpenStreetMap. Sachant qu'en plus, ça va être basé sur des photos aériennes. Donc, l'objectif, c'est aussi de ne pas avoir que les arbres sur le domaine public, mais aussi sur le domaine privé, parce que c'est un indicateur de chaleur, de fraîcheur, etc. Donc oui, la
Et du coup,
réponse.
dans l'autre sens aussi, si une erreur avait été repérée par un habitant qui corrige dans OpenStreetMap, est-ce que vous avez...
Alors, ça serait idéal. Ça serait vraiment idéal. Malgré tout, ça demande une sorte de travail de modération, c'est-à-dire de vérifier. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué, mais bon, c'est concevable, disons.
Alors, moi, j'avais une question à poser à Rachel, si elle est encore là, puisque effectivement, quand on aborde la question de la gouvernance par la donnée à Marseille, qui est une grande ville avec d'importants moyens, ma question qui s'adressait à Rachel était la suivante. Comment est-ce que sur une petite collectivité, est-ce que la question de la data, c'est un sujet en fait? Est-ce que là, dans la manière de gérer les choses, est-ce que vous, à la Bruyère, la donnée est un sujet? Est-ce qu'il est seulement question de gouvernance par la donnée, ou est-ce que finalement c'est vraiment des moyens, notamment en personnel plus importants, qui permettent d'avoir une politique de gestion de la donnée?
Oui, donc en fait, dans les plus petites communes, en effet, ça a beaucoup moins d'importance, aussi bien pour les élus locaux que pour les citoyens. Mais comme ça a beaucoup d'importance pour moi, ben, fatalement, j'ai mis en place pas mal de choses aussi, dont une plateforme qui est disponible aux élus locaux pour avoir accès à absolument tous les dossiers qui sont en cours de traitement ici à l'administration communale. Et j'espère que d'ici fin d'année, voire l'année prochaine, ces mêmes dossiers seront également disponibles pour les citoyens, mais ça c'est plus compliqué. Et je rejoins Christophe Hugon qui disait qu'en effet, quand une donnée doit être disponible pour le public, elle doit avoir une qualité supérieure à celle qu'on utilise en interne. Et ça, par contre, certains de nos employés communaux ne sont pas encore prêts à faire l'effort d'améliorer la qualité de leur délibération, la qualité de leur dossier pour que celui-ci soit disponible. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire chez certains d'entre eux. Comme j'expliquais, là pour le moment, moi j'ai juste pris avec moi ceux qui étaient OK, hein, pour avancer dans cette direction. Mais malheureusement, on ne peut pas convaincre tout le monde, que ce soit des employés ou même la direction générale d'une commune. Donc clairement, non, ça n'a pas beaucoup d'importance pour les citoyens et pour les élus locaux. Et donc c'est pour ça que c'est important que pour nous, en tout cas, pour au moins l'un des élus locaux, ça ait de l'importance pour faire avancer justement les choses à ce sujet, parce que voilà, pour même pour les écologistes belges, c'est super important la transparence politique et la transparence des décisions qui sont prises par les différentes instances communales.
Merci, merci beaucoup Rachel. Là, je vais. Il y avait une question? Oui, je vous en prie, allez-y.
Oui, bonjour. J'aurais la question suivante, c'est que ce soit pour une grosse collectivité comme pour une plus petite, est-ce que la gouvernance de la donnée, c'est un sujet qui est de la proportionnelle à l'échelle de la ville ou au contraire, c'est quelque chose qui est un schéma transverse qui peut s'appliquer à toute échelle et avec les mêmes difficultés et les mêmes succès aussi.
Oui, ok. Donc, excellente question. La gouvernance de la donnée est très très importante parce qu'elle est à tous les échelons. En réalité. Et donc, on a effectivement une part des données qui sont partagées au niveau, on va dire, métropolitain, au niveau régional, au niveau départemental. Donc ça, c'est une problématique qui est commune, ou au niveau de l'État. Mais les mairies, les communes, doivent gérer une assez grande quantité de données. Ils ont parfois même leur propre data center, hein, c'est le cas à Marseille. Et justement, si on a nos propres data centers, c'est aussi pour une question de gouvernance et de souveraineté. Maintenant, la gouvernance et la souveraineté, il y a plusieurs écoles qui sont à considérer, parce que c'est un mot un petit peu vague. Est-ce que la gouvernance de la donnée et la souveraineté, ce n'est que localiser ces données en France? C'est une très bonne question, mais avoir ces données en France sur des logiciels propriétaires qui communiquent avec on ne sait quelle entreprise et on ne sait quel pays, est-ce que c'est vraiment la gouvernance et la souveraineté de la donnée? Et c'est là où la question du bien commun numérique, donc de l'open source et du logiciel libre, où on sait ce qui se passe et comment ça se passe, intervient. Et après, question inverse, imaginons, je suis capable d'encrypter parfaitement et de contrôler la totalité des flux qui sera sur le serveur que je vais utiliser. Est-ce qu'avoir un VPS, donc un serveur virtuel à l'étranger, alors que tout est encrypté, tout est sous contrôle, ce n'est pas de la gouvernance de la donnée? C'est une question assez importante parce qu'elle est à la fois technique, mais aussi extrêmement politique, puisque la maîtrise de sa propre donnée et de son information, qu'elle soit confidentielle ou non d'ailleurs, c'est un enjeu de pouvoir public et c'est un enjeu de confiance que les citoyens peuvent avoir envers les institutions.
De là à penser effectivement qu'il faudra avoir une vision du cycle de vie de la donnée dans son ensemble et donc être capable d'avoir une vision de toutes les brèches de souveraineté de son infrastructure jusqu'aux autoroutes de l'information, pour le dire comme ça. Il n'y a qu'un pas, pour avoir un peu de hauteur, si je comprends bien. Il y avait une question, Madame Ouldi, je vous en prie.
Une question très brève. Moi, je me demandais comment ça se passe pour que les citoyens s'emparent aussi de ces données et s'intéressent à ces données et les consultent, parce que je vois le travail, en fait, pour les mettre à disposition. Mais est-ce que les citoyens vont consulter beaucoup ces données ou non, en tout cas?
Alors, c'est une extrêmement bonne question. Et c'est un très gros enjeu. On a ouvert, en France, on est assez précurseur hein, de l'ouverture des données. Internationalement, on fait partie des premiers, on fait partie de ceux qui en ouvrent le plus, en plus grande quantité. Et il y a réellement une course à ça, pour finalement une utilisation qui est mitigée. Certaines données sont très utilisées, certaines données sont très utilisées par les entreprises, d'autres plus par les citoyens. Donc il y a un vrai enjeu de médiation et surtout d'anticipation de la donnée, de son utilité et de la communication autour de cette ouverture de la donnée. Je donne un exemple. Les données, typiquement, je reviens toujours là-dessus, mais parce que je suis assez content du résultat pour quelque chose qui paraît aussi anodin. Mais le cas des données lampadaires, oui, ça a été bien utilisé, ça a été assez utilisé. On a aussi ouvert les audits des écoles. Il y avait eu un audit qui avait été fait il y a des années sur l'état des écoles à la ville de Marseille. Ça, c'est des données qui ont été extrêmement utilisées aussi. Maintenant, on a ouvert des données, et c'est dommage, typiquement, des agents volontaires de la ville de Marseille, des agents parcs et jardins, faisaient des prélèvements biodiversité dans les jardins et comptaient le nombre d'espèces, etc. C'était totalement bénévole et on avait fait un petit peu des données. C'était pour estimer l'état de la biodiversité dans nos jardins. Et ça a été ouvert. C'est une donnée qui, en soi, lorsque je vous la présente comme ça, est extrêmement intéressante. Mais elle n'a pas encore été utilisée, malgré tout. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas et puis il n'y a pas de cas d'usage qui a été clairement identifié. Il n'y a eu que des bonnes intentions. Mais c'est une problématique qui est toujours sur la table, constamment. Parce que on peut avoir une donnée... c'est un peu un jeu de hasard. On ouvre une donnée, on ne sait pas si elle va vraiment être utilisée ou pas. Et si ça se trouve, ça peut exploser. Si ça se trouve, ça ne sera jamais utilisé, alors que ça paraissait évident. Oui.
Alors, je relaye une question de quelqu'un à distance, donc Pierre Schweitzer, qui fait partie du comité des usagers du numérique. À Marseille, est-ce que la commission de l'ouverture des données est ouverte aux habitants?
Si. Oh là là, mais que de bonnes questions. Hein. Tu l'as briefé avant hein, pour qu'il me pose quelque chose comme ça. Alors, l'intention y est. En réalité, déjà, la commission traite les demandes citoyennes. Donc déjà, ça, c'est une entrée. Bon, c'est un petit peu évasif. Moi, ce qui est souhaitable et ce qu'on veut mettre en place, et je pense que ça va être dans l'une des prochaines commissions, parce qu'on est un petit peu sur une retransformation de cette commission, parce que la première version, je la qualifierais un petit peu de naïve. Bon, c'est moi qui l'ai construite, donc c'est dommage, mais, donc on est un peu en reconstruction. Une fois qu'elle sera stabilisée, j'aimerais qu'il y ait des commissions extraordinaires ouvertes aux citoyens. Maintenant, l'ouverture aux citoyens des commissions, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en réalité, dans ces commissions-là, tout le monde se permet de se dire ses quatre vérités, sur ses craintes, sur ses connaissances, sur ses attentes. Et ça, ce franc-parler qui est finalement entre politique et entre services, parfois il peut y avoir des tensions, parfois il peut y avoir des amitiés, des choses comme ça, le faire devant les citoyens, non, devant les citoyens, c'est un peu comme le conseil municipal ou ce genre de choses. C'est un peu plus théâtral, disons. Donc il ne faut pas que ce soit la règle générale, parce que sinon il n'y a plus de volonté politique derrière. Par contre, il faut qu'il y ait effectivement des lieux où les citoyens puissent exprimer directement leurs attentes, surtout. C'est surtout leurs attentes. Et ça répond d'ailleurs à votre question. C'est l'un des outils qu'il ne faut pas hésiter à développer, justement, pour qu'il y ait un petit peu une anticipation de ce qui serait utilisé ou pas. Il y avait un monsieur qui levait la main, là-bas.
J'avais juste une question par rapport au choix des données. Comment vous choisissez quelles données méritent d'être exposées en open data et quel doit être le contenu, au final? Parce qu'on avait parlé des arbres. Peut-être certaines données manquent, hein, mais comment on sait quelles données sont manquantes lorsqu'on n'a pas de cas d'usage?
Oui, alors justement, alors là, beaucoup de questions en une. Alors la première réponse, c'est comment est-ce qu'on fait le choix? Comme j'ai dit, on a dans cette commission-là le service juridique et le service technique. Le service juridique dit si c'est techniquement possible, ça on est obligé de le faire. Et on peut ouvrir jusque-là, et à partir de là, on ne peut plus. Donc, a priori, juridiquement, on n'a pas le choix. C'est soit on peut, soit on ne peut pas. Il y a quelque chose d'un peu binaire. On peut faire plus, on a une marge de manœuvre, mais elle est que... ensuite, il va y avoir la technique qui va dire, ça existe déjà, donc on peut le faire. Et si ça existe déjà, et que légalement on doit le faire, là, il n'y a pas de choix. La décision, l'arbitrage, elle est juste, est-ce qu'on investit pour faire mieux, ou est-ce qu'on ouvre en l'état? C'est un petit peu ça. Ensuite, le choix, il va être par contre sur des décisions un petit peu lorsque ça ne répond pas aux demandes citoyennes. C'est-à-dire se dire, par exemple, on va produire un document, c'est ce qui a été fait sur les budgets de la ville de Marseille, on va faire un document d'information aux élus autour du budget. Et puis après, on a décidé de l'ouvrir. Voilà, c'était pas une demande. Mais c'est intéressant. Alors, il a été ouvert avec la charte graphique a été un peu changée, parce qu'on ne parlait pas au même public, donc la formulation n'était pas tout à fait la même dans les textes introductifs, etc. Mais ce genre de choses, c'est plus un choix autour de comment est-ce qu'on va plus loin, finalement. C'est un petit peu l'objet de cette commission. Aujourd'hui, on n'y est pas encore parce que ça grippe dans tous les sens. Bon, c'est le monde politique, mais l'objet de cette commission, c'est justement d'être capable d'aller plus loin et de mettre une intention, une volonté politique derrière l'ouverture des données, finalement. Le choix, il est là. Il n'est pas sur est-ce qu'on choisit de respecter la loi ou pas, quoi.
Je vous en prie. Pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être demandé là, au niveau du volume de données et du stockage de ces données et de l'éventuelle mise à disposition de données, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne sont pas utilisées ou pas utiles, comme vous avez pris l'exemple des insectes dans le parc, est-ce qu'on risque pas à un moment de se retrouver face à un mur avec ça, comme vous l'avez dit pour l'arbre, d'abord la taille de l'arbre, la taille de la canopée, la couleur des feuilles, les insectes, l'épaisseur de l'écorce, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans un volume de données trop important pour être utilisable par le citoyen lambda et pas par des experts ?
Alors, plusieurs choses. Déjà, on a un format standardisé, c'est avec Open Data France qu'on fait, de la donnée, dans laquelle, justement, est déjà un petit peu pré-identifié qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Voilà. Le nombre de feuilles d'arbre dans chaque arbre n'est pas utile en Open Data. Voilà. Ensuite, une fois que c'est passé à ce genre de moulinette, le volume final est quand même très très largement réduit et est assez gérable. On a par Open Data France aussi un document pour accompagner autour de la sobriété sur les données. Mais la réalité de ce volume-là, c'est pas tellement un mur par rapport à la quantité de données qu'on est capable de stocker, hein, parce que la totalité des données ouvertes aujourd'hui à la ville de Marseille, c'est des pages et des pages, mais tout tient sur une clé USB, hein, donc on n'en est pas là. C'est plus sur la maintenance finalement du serveur qui va le faire, comment est-ce qu'on gère ce coût-là, même s'il est pas forcément énorme vis-à-vis de son utilisation ou pas. Et c'est là où ils font un petit peu de pertinence vis-à-vis de ça, quoi.
Juste une petite question. Comment est-ce que sont évalués les risques qui sont associés à la mise en ligne de données qui peuvent paraître toutes bêtes et qui pourtant peuvent éventuellement amener un certain nombre de risques pour la collectivité, pour la population, etc. Je pense par exemple, au lieu de captage de l'eau ou d'autres données qui peuvent comme ça être relativement sensibles.
Alors, là, on rentre plus justement sur le côté politique. Déjà, à la base, la loi définit que c'est d'intérêt public, ça doit être ouvert. Donc la loi est là-dedans. Ensuite, et là, c'est un jugement politique, hein, je vais le formuler comme ça, mais la réalité, c'est que si on est mal intentionné, réellement mal intentionné au point qu'on s'intéresse au lieu de captage de l'eau, bon, c'est pas en open data, je vais mettre 3 jours de plus pour le repérer, quoi. Faut pas non plus partir dans le, ils vont pas faire, flûte. Voilà. Donc, il y a aussi une question de proportionnalité. C'est-à-dire que, les données qui sont ouvertes ne permettent pas ce qu'on n'aurait pas pu faire sans. Ça, enfin, ou alors vous me trouvez vraiment l'exemple terrible, mais en soi, il n'y a pas de. Enfin, personnellement, vas-y, un petit peu à toi.
J'ai envie de rebondir sur cette question parce qu'elle nous est posée régulièrement. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas avoir des externalités, enfin des effets rebonds négatifs en communiquant des données ? Et donc le premier réflexe, c'est quand même celui du juriste, en fait, de regarder le droit. Et on n'a pas d'excuses au sens juridique à ne pas communiquer ces données en open data à partir du moment où elles sont des données publiques. Et si vraiment leur communication est susceptible d'entraîner un danger, en général, c'est parce qu'elles sont protégées, secret défense, protégées du fait de la propriété industrielle, souvent. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas d'exception légale, on n'a pas à se poser la question. Alors, en revanche, ça peut attirer effectivement notre attention sur des problèmes qu'on ne peut pas ignorer et qui découleraient de la mise à disposition. Et je pensais notamment à cet exemple, on en avait longuement parlé. Quand on a commencé à mettre l'implantation des antennes de téléphonie mobile, on nous a dit, attention, il y a peut-être certains quartiers dont la valeur immobilière va baisser. Voilà, il y a des effets comme ça. So what? Enfin, Je t'en prie, vas-y.
Alors, par contre, effectivement, tu m'as fait penser à un cas. Alors, ce n'est pas un cas d'antenne, mais par contre, à Marseille, on a un précédent d'externalité négative qui est un peu plus importante que ça. La ville de Marseille, comme toutes les grandes collectivités de France, en réalité, c'est juste qu'on s'en cache moins, on a toujours, mais il y a eu une période de problèmes de punaises de lit assez forte, une invasion et une contagion. Et donc, on a mis très rapidement en place des services qui permettent d'accompagner les gens, donc en prêtant machines à vapeur, des machins, etc. etc. Et donc, l'idée, c'était de se dire, ah ben voilà, ça, c'est une donnée d'intérêt public, dans le sens où on a la contamination des punaises géolocalisées. Et donc, ça a été ouvert. Au début, ça a été ouvert. La problématique, c'est que à Marseille, c'est une grosse mosaïque de quartiers extrêmement riches, l'écart de salaire est extravagant et extrêmement pauvre. Et certains quartiers avaient plus honte que d'autres de publier les données. Donc les données étaient totalement fausses, déjà de base, parce que c'est le genre de choses qui ne pardonne personne. Donc là, ça c'est clair. Et donc, en réalité, ça a eu un impact social, c'est-à-dire ça a eu un impact immobilier aussi, mais ça a eu un impact aussi de la vision d'une partie de la population de la ville de Marseille sur une autre, et ça a creusé l'écart social qu'il y avait entre les deux, et ça avait un impact sur la mixité. Donc là, on avait réellement eu une externalité négative très forte, et les données ont été refermées.
Il y en avait une négative après.
Oui, mais là, il n'y avait pas eu de demande d'ailleurs d'ouverture. En soi, les données sont incomplètes. Donc avec la loi, on pouvait, de toute façon, même s'il y avait une demande, on pouvait s'en sortir. Parce qu'il y a un côté aussi, c'est des données incomplètes. Si on voulait les compléter, il faudrait beaucoup de travail. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça. Malgré tout, cette question, effectivement, elle se pose. Je ne l'ai jamais vue sur les questions de sécurité. Je l'ai toujours vue sur des questions sociales. Et c'est souvent ça. Mais voilà. Donc pour répondre à la question.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques sur ce sujet qu'on a eu l'occasion d'approfondir un peu plus, puisque vous l'aurez remarqué, notre collègue Madrilène a eu des problèmes de connexion, donc ça a permis à Christophe de... Voilà, de
oui, mais j'aime beaucoup ça, t'inquiète pas.
d'être un peu davantage en interaction avec vous. Donc c'est parfait. Soraya, oui.
Je pose deux questions, j'utilise deux fois mon joker question. Mais du coup, je rebondis à ce que vous disiez, quand vous expliquiez cette histoire d'ouvrir la géolocalisation, ces données de géolocalisation sur les punaises de lit, je vous avoue que ça me questionne beaucoup sur le pourquoi l'avoir fait. Parce que c'est un fait d'ouvrir les données, c'est-à-dire de permettre à tout citoyen, s'il le demande, d'avoir des informations, mais de l'ouvrir de cette manière... Moi, j'aurais peur, surtout dans le cas des punaises de lit, où on sait qu'il y a tout un cadre psychologique et de folie, quoi, qui peut être de psychose, ouais, qui peut être générée. Merci pour le bon mot, c'était psychose, c'était pas folie.
Non, mais c'est une très bonne question. Alors, l'intention, j'avoue que je ne la connais pas, parce que c'est quelque chose qui a été fait juste avant qu'on arrive. Même si, a priori, moi, je me serais dit, tiens, pourquoi pas, et pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est... pour augmenter la vigilance, parce que, bon, on va parler punaises de lit, mais c'était peut-être pas le sujet à la base, mais il faut savoir qu'au niveau de la contamination, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau à partir duquel, si on intervient immédiatement, c'est bénin, et puis après, il y a des niveaux où ça commence à sortir de la chambre, et que ça commence à aller chez le voisin, sans qu'on ait rien à faire particulièrement. Alors, on faisait pas géolocaliser nom, prénom, à un immeuble, etc. C'était plus pour des quartiers, des choses comme ça. Et c'était un petit peu pour donner des vigilances, d'un côté. C'est une intention que je leur prête, parce que j'en ai jamais discuté, mais je pense que c'est ça. Et aussi... Pour le côté, un petit peu, il y avait, je pense, une volonté de montrer que ça arrive, en fait. Ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça arrive. Il y a un truc où, un peu essayer de casser cet imaginaire. C'est, disons, l'intérêt que je peux imaginer quand on a cette idée-là. Mais, comme je disais, je ne la connais pas. Nous, on est arrivé justement un peu après qu'ils aient décidé de le fermer. Après, c'était l'époque, là, on revient un petit peu au début de mon discours, c'était l'époque où l'open data n'était absolument pas politisé. Et donc l'ouverture des données était assez automatique, était assez un peu à l'idée. Il y avait justement pas forcément, il y avait des bonnes intentions, c'est sûr, parce que je connais ceux qui y travaillaient. Donc, mais il n'y avait pas de volonté politique derrière. Et pour moi, c'est une problématique, ça aussi. C'est pour ça que cet outil à la ville de Marseille, on essaie de le mettre en place et on essaie de le rendre opérationnel au maximum.
Oui, moi j'aurais du coup une question, quoi. Effectivement, toujours sur cette histoire de données communicables. Est-ce que ça sous-entend qu'à partir d'un certain degré de granularité, une donnée ne peut plus être éventuellement communicable ?
Oui, ça veut dire ça. Si ça permet l'identification, si ça ne respecte pas la vie privée, si ça dépasse le RGPD. Par exemple, on ne peut pas donner des adresses, on ne peut pas donner des noms. Par exemple, pour ce qui est données géolocalisées qui correspondent à la vie privée, comme là le cas des... On peut donner une zone, on peut donner... Alors là, c'est un peu jugé finalement, hein, mais on ne peut pas dire dans cet immeuble quelque chose qui permettrait d'identifier les gens. C'est un petit peu illégal, mais un petit peu beaucoup.
Ce qui suppose effectivement d'avoir une stratégie de collecte qui soit quand même extrêmement claire, quoi, dès le départ, au-delà de la question des volumes, etc., pour ensuite voir publiques, elles sont publiques, ça c'est une chose, communicables ou pas, ça va du coup nécessiter un véritable audit, quoi, derrière.
Oui. Tout à fait, c'est pour ça que cette code, il y a aussi les éléments juridiques et techniques. Je vais donner un autre exemple. J'ai évoqué l'audit des écoles qui était finalement une étude de l'état des écoles à Ville de Marseille qui avait été fait avant qu'on arrive. Il y avait des fois des choses bien qui étaient faites avant qu'on arrive. ça arrive, on ne peut pas tout faire bien. L'inverse est vrai aussi. Quoi qu'il en soit, cet audit contenait des photos des locaux des écoles vides. Mais en l'état, il était non communicable. Parce qu'il y a les photos des enfants sur les porte-manteaux, parce qu'il y a la tête du photographe dans le miroir sur une photo sur 10, parce que quand il prend la photo d'une fenêtre cassée, ben, il y a quelqu'un qui se balade dans la rue, il y a etc., etc. Donc a priori, on aurait pu très bien dire c'est 1500 pages. C'était même voire plus, parce que c'était 5 pages par école, on a 470 écoles. Oui, c'est ça, c'est à peu près 1500 pages, avec des milliers de photos. Et donc c'était un travail monstrueux pour l'anonymiser, finalement. Hein. Et enlever les photos, ça n'avait pas de sens, parce que l'audit reposait énormément sur les photos. Et donc, du coup, on a malgré tout trouvé une solution, justement, de retouches automatiques des photos, etc. Je me suis amusé à le faire, c'est moi qui ai codé, je me suis bien amusé. Mais ça demandait un effort supplémentaire. Malgré tout, ça répond à votre question. Et oui, on ne peut pas tout donner comme ça. Et oui, très souvent, ça demande un travail supplémentaire de floutage de la vie privée, quoi. Caviardage, on utilise comme mot souvent.
Caviardage,
oui. Mais on n'utilise pas de caviar.
En effet, selon la taille du périmètre et la densité de la population considérée, ça devient une donnée à caractère personnel ou ça n'est pas une donnée à caractère personnel. Donc pour le même cercle, ça peut être très différent. Ce que je retiens quand même de tout ça, c'est qu'on a une question d'accessibilité et ça a été plusieurs fois soulevé. C'est-à-dire qu'il y a une masse de données. Que ce soit donc dans le système d'information de Marseille qui est mis à disposition, Strasbourg également a un grand nombre de jeux de données qui sont ouvertes. Néanmoins, ma question c'est quand on n'a pas la formation pour ne serait-ce que savoir ce qu'on peut faire avec tout ça, quand on n'a pas la culture informatique ou la sensibilité numérique en tant que citoyenne et de citoyen, que ce n'est pas son métier, que c'est pas son... on n'a même pas idée de ce qu'on peut faire avec. Et donc, pour moi, il y a quand même ce travail-là à faire sur ce que nous, on va appeler les solidarités numériques, c'est-à-dire faire en sorte de mettre à disposition au public ne signifie pas que le public va pouvoir utiliser les jeux de données. Et ça, c'est quelque chose qui forcément passe par l'éducation populaire au numérique, puisque aujourd'hui, dans l'enseignement, nous n'avons pas de cursus qui permettent, ou en tout cas, ça démarre, hein, ça fait que démarrer, donc on n'a pas vraiment de cursus qui permettent aux jeunes, hein, de monter en compétences sur ces questions.
Ça va être des modules à droite, à gauche. Ça va être une après-midi d'éducation au Shadok, comme il y en aura demain, mercredi. Enfin, voilà. Donc, ce sont des choses qui font que, aujourd'hui, on a beau mettre toutes les données, les jeux de données les plus propres, de meilleure qualité dans des bases de données incroyablement bien construites, si les destinataires ne sont pas en mesure de se l'approprier, on passe quand même à côté de quelque chose. Et ça, oui, Jean-Sébastien.
Oui, je voulais juste intervenir et donner un cas un peu positif à Strasbourg, comme ça, vu qu'on y est, sur la réutilisation des données. Et puis j'aurais une question pour Monsieur Hugon. Je pense qu'à Strasbourg, les usagers ne se rendent pas compte qu'ils voient tous les jours des données open data, puisque nous, on a décidé d'en faire des données de référence en termes de pivot sur nos services web. C'est-à-dire que les horaires, par exemple, des piscines sont redistribués, mais ils sont aussi récupérés sur l'application dans laquelle vous avez votre piscine favorite. Donc, je crois qu'effectivement, il y a une difficulté de lecture, mais il y a aussi une absence de connaissance totale que finalement, les données sont à un seul endroit. Donc, vous parliez de données de qualité. Ben, nous, les services, pour les embarquer, on leur dit, vous les saisissez une fois à un seul endroit. On va pouvoir les récupérer et les distribuer. Ça fait le lien avec aussi l'impact environnemental, parce qu'on en parle pas beaucoup, hein, mais il y a un impact à l'open data aussi, même s'il est léger, je pense, de libérer toutes les données. Quand j'entends 1000 photos d'école, voilà, faut se poser la question, je crois, à un moment, si c'est vraiment nécessaire ou si l'audit papier peut suffire. Voilà. Et pour Christophe, est-ce que, du coup, à Marseille, vous avez des cas de réutilisation économique, puisque au départ, la loi d'open data, c'était aussi pour que les entreprises s'en emparent des données publiques et en fassent un business financier ou pas.
Alors, d'abord, par rapport à la question des 1000 photos, hein, vu la tronche des écoles que nous ont laissé l'ancienne majorité, oui, c'était nécessaire. Ouais.
Ça balance.
Non, mais parce que là, c'était quand même les écoles où il pleut dedans, les trucs comme ça. Donc oui, cet audit a été extrêmement utile pour réussir justement. On l'a retrouvé dans un tiroir d'ailleurs, hein, techniquement. Hein, Donc la question, du coup, je me suis perdu. La
question, pardon, est-ce que vous avez des exemples de cas d'utilisation économique, hein, alors, pas juste de recherche ou de consultation?
Oui. Alors, économico-culturel, pour l'exemple. Par exemple, les données open data culturelles, donc événements, mais aussi marchés, etc., sont disponibles sur des sites de la ville, mais aussi donc un petit peu comme des applications, mais aussi sont réutilisés par des entreprises un peu externes ou des applications externes. Et on a fait aussi un peu une carto et des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu marginal, mais je pense qu'on est moins avancé que la ville de Strasbourg. Enfin, du moins, je m'y attends, c'est a priori, j'ai pas fait la comparaison, parce que l'état de la donnée, lorsqu'on est arrivé, c'était assez difficilement exploitable. Donc on est encore sur de la restructuration autour de la donnée. Mais oui, il y a un autre cas, c'est l'usage des routes fermées et des travaux, échafaudages, etc., dans le cadre d'une convention avec Waze, typiquement, ou ce genre de choses. Donc on a ce genre d'utilisation qui existe, oui.
Vous avez une question, monsieur? J'aurais une petite question, oui. Là, vous parlez de nettoyage, de préparation de la donnée. En fait, l'open data, la beauté aussi du truc, c'est que les gens se l'approprient quand quelqu'un, l'émetteur de la donnée n'anticipe pas forcément les usages qui pourront en être faits, ou n'anticipe pas forcément que personne ne connaîtra la donnée. Donc, et l'exercice de nettoyage de la donnée peut être assez coûteux. Donc, comment mettez-vous la barre dans la mesure où, l'intérêt de l'open data, c'est aussi de pouvoir diffuser de la donnée quasi brute, d'une qualité minimale quand même, et puis aux exceptions près dues au RGPD, là où on peut tout simplement pas diffuser du tout sans le respecter. Mon point, c'est comment vous mettez la barre sur le niveau de qualité de données pour ne pas vous avoir trop d'efforts à dépenser, et ce qui permet d'ouvrir des données. Quitte à ce qu'elles soient d'une qualité pas parfaite, mais sachant que les gens qui vont se les approprier compenseront ou tenteront de compenser les... Oui. Et même vous faire des remontées de qualité, d'ailleurs, pour améliorer les jeux de données, quoi. Typiquement, en cartographie, ça peut se faire, quoi.
Donc, y a deux choses. Déjà, il y a le niveau de qualité, ça, c'est un peu arbitraire. réalité, il y a, on va dire, une, c'est un peu dans le consensus d'une majorité, etc., etc. De, comme c'est un peu l'image finalement, qu'est-ce qu'on veut diffuser ou qu'est-ce qu'on ne veut pas diffuser en fonction de sa qualité. Donc là, il y a pas de vraies règles, c'est-à-dire que disons que si à la ville de Marseille, on était plutôt de mon avis, on ouvrirait beaucoup plus de choses et on serait dans cette optique-là. Mais il y a un côté perfectionniste dans les gens avec qui je travaille qui veulent que ce soit. Voilà. Donc y a, ça, c'est un petit peu arbitraire. Pour le nettoyage côté formatage, etc., en réalité, il ne faut pas oublier qu'il y a des standards qui sont assez importants pour que les données soient compatibles d'une ville à une autre, au niveau de l'État, etc. C'est une standardisation qui est généralement pilotée par Open Data France. Donc, il faut pas. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on travaille les entrées hein, un petit peu plus citoyennes autour de ça. Mais c'est souvent un petit peu par là que ça passe. C'est-à-dire que, imaginons que. Un format de données, parce que du coup, toutes les villes ont un peu le même, manque d'une info ou d'une autre pour un intérêt, etc. Je pense que plus que la ville, c'est plus vers Open Data France qu'il faut aller et discuter avec eux pour que le standard évolue, parce qu'il y a quand même une ouverture autour de ça. Mais voilà, à ce niveau-là, il y a des préconisations qui sont un peu fortes pour l'interopérabilité, en fait. Et ça se comprend. Une entreprise qui travaillerait sur, ou une association d'ailleurs, hein, ou des citoyens, ou OpenStreetMap. Si OpenStreetMap, qui quand elle a des formats de données qui n'ont rien à voir d'une ville à l'autre et qu'elle veut aspirer et qu'elle doit faire des milliers de lignes de code pour gérer ça, c'est quand même c'est très coûteux. Et donc il y a ce côté standardisation et interopérabilité qui, à mon sens, est extrêmement important et ne doit pas être négligé.
Merci.
Allez-y.
Une petite réflexion plus qu'une question, ou si ça peut induire une question. La mise à disposition de données participe à la transparence de la vie politique et sans doute à un meilleur dialogue entre parties prenantes. Est-ce que vous avez un cas d'usage qui s'est déjà présenté enfin voilà.
On prend cette question et également celle qui allait être posé juste derrière.
Oui, c'était juste par curiosité. Est-ce que vous avez une idée à peu près du pourcentage de données produites par la ville, réutilisées par des chercheurs universitaires, par exemple ? C'est quand même des jeux de données très intéressants. La collecte est déjà faite.
Alors, première question sur l'apaisement, hein, parce que c'est de ça. J'ai un très beau cas d'usage dans lequel il y avait un millier de photos et 1500 pages et qui étaient dans un tiroir. Effectivement, lorsqu'on est arrivé à la mairie de Marseille, il y avait une tension extrême autour des écoles, une tension tout à fait justifiée, et vraiment une pression énorme pour qu'on soit très transparent vis-à-vis de ça. Et il y avait une virulence assez forte, hein. Il y avait énormément de colère derrière. Et donc, on a ouvert l'audit des écoles. Ça a mis un certain temps parce qu'on l'a complété, on l'a qualifié, on a fait des priorités, on a publié les priorités aussi, des travaux, etc. Donc, ça a mis quelques mois pour la sortie. Malgré tout, une fois que c'était sorti, beaucoup de travaux urgents avaient été faits, etc. Et ça tellement apaisé le dialogue qu'il n'y en avait plus, en fait. C'est grosso modo, on sait exactement ce qu'il y a, on sait comment est-ce qu'ils le prennent en main, et effectivement, quand on regarde les travaux qui ont été menés, ils sont là, et donc là, on est vraiment dans un apaisement, mais c'était un pic extrême on passe à autre chose. Bon, on se fait engueuler pour autre chose, hein, vous n'en faites pas, mais oui, effectivement, on a ce cas-là. On a parfois aussi le cas autour des antennes et des mesures. Donc les mesures électromagnétiques, on a fait les mesures sur toutes les écoles et ensuite on les a publiées, qui étaient très bonnes d'ailleurs, donc on est assez content qu'on a communiqué au collectif des écoles MPE13, etc. MPE13, et ça a vraiment apaisé beaucoup 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 de craintes autour de la problématique des antennes et d'exposition. Parce qu'il se trouve qu'on était largement en deçà d'un facteur 20 du maximum et largement en deçà, en dessous du, du seuil d'alerte qu'on a mis à Marseille, qui est à 4 voltmètres. Enfin bon, voilà. Donc oui, on a plusieurs cas où effectivement ça a apaisé la situation.
Et les données de la recherche, et puis ensuite...
Oui, alors les données de la recherche, c'est très difficile à estimer. C'est-à-dire que les données, généralement, on manifeste nous-mêmes sur pourquoi ça a été utilisé, on l'en informe, et c'est rarement fait. Donc ça serait intéressant de le savoir, et bon, c'est pas facile. Mais c'est une très bonne question, c'est très intéressant. Ouais.
Je vous en prie. J'allais dire encore une ou deux questions et puis je vais passer à la conclusion. Allez-y.
Oui, ben plus un témoignage en fait qu'une question. Je trouvais très intéressant la discussion autour de l'open data. Et témoignage parce qu'à la ville de Paris, quand on a lancé l'open data, par exemple, on avait imaginé qu'il y avait des jeux de données qui seraient plus consultés que d'autres. Et on est toujours étonné parce que pendant très longtemps, le jeu de données le plus consulté, c'était les prénoms de l'état civil. Et c'est vrai que, en fait, ce n'était pas ce qu'on avait imaginé au départ. Et également par rapport à la confidentialité des données, nous, on s'est aperçu qu'il y a aussi des notions de temporalité qui font que, en fonction de la temporalité, je pense par exemple au lieu de tournage de films, bien sûr, ils ne sont pas divulgués avant que les films soient tournés. Sinon, il peut y avoir effectivement des risques, entre guillemets. Et donc, il y a certains, effectivement, jeux de données qu'on diffère à publier en fonction des événements.
Alors, pour les prénoms, effectivement, je rejoins, il y a parfois, effectivement, des surprises. D'ailleurs, on a sorti, nous aussi, les prénoms. Ce n'est pas critique, mais disons qu'avant, ils avaient peur que ce soit Mohamed en premier, donc ils étaient contre l'ouverture. Ils ont dû être déçus, ce n'est pas ça du tout, mais c'est une autre question.
Alors, je vous en prie, et puis Jean-Sébastien, ensuite, allez-y.
J'avais juste une question par rapport à l'intégrité des données. C'est-à-dire que lorsqu'une donnée est publiée, c'est pas pour ça qu'elle est juste et vraie. Je pense à Wikipédia, par exemple. Comment est gérée cette traçabilité avec, je sais pas, par exemple, avec de la blockchain ou des choses comme ça qui permettent de verrouiller une donnée dans le temps et de s'assurer de sa traçabilité, de ses modifications. Parce que vous parliez des mesures, par exemple, d'ondes. Qui me dit que je peux faire confiance à votre jeu de données ?
Alors, c'est intéressant. Merci de me permettre de poser de nouvelles questions à Open Data France. Ça va être très intéressant. Je pense que déjà, si on avait eu un chasse 1250, enfin, un hash, un H pour la base originale, ça pourrait permettre un certain contrôle. Maintenant, il ne me semble pas qu'il existe de choses comme ça. Mais un simple H, je pense que ça ferait déjà pas mal. Pourquoi pas ? Pour commencer, même si ce n'est pas parfait.
Une suggestion.
Cela dit, en effet, sur la question de Wikipédia, et je ne fais pas forcément de la publicité pour l'atelier qui se déroule en ce moment et toute la semaine pour apprendre à devenir un contributeur efficace de Wikipédia, mais il est vrai qu'il y a tout un processus en fait de contribution et ça nécessite là encore une éducation en fait à l'outil qui n'est pas toujours suivi, et donc plus on se forme à l'outil et plus il y a une qualité de la donnée qui en sort. Donc c'est un peu comme tout, il faut se former, s'y intéresser. Il y avait alors Jean-Sébastien,
et c'est, vous c'est plus aussi une réflexion, mais peut-être aussi pour monsieur Hugon, vous en parliez tout à l'heure, et il y a un cas moi qui m'a beaucoup, enfin ça a résonné au niveau par exemple de la canopée, mais autres. Est-ce que demain l'idée c'est peut-être pas plus de dire aux usagers qui peuvent voir ces données pour justement avoir un jugement sur une politique publique et vérifier que les engagements ont été tenus? Donc par exemple pour les écoles, on va pouvoir voir la suite. Moi je pense à Strasbourg pour la canopée puisque c'est un gros sujet, et donc concrètement en fin de mandat on pourra regarder si les données ont changé, par exemple.
Oui.
Donc alors, ça peut être à double tranchant.
Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est que quand je parlais de machines un peu grippées, etc., c'est pas du tout ma crainte, mais moi je suis au numérique, donc ça va. Mais effectivement, c'est l'une des craintes des politiques, c'est de donner des outils pour se faire taper dessus. Bon, d'expérience, je pense que c'est généralement, c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne, mais oui, c'est un levier pour faire ça. Maintenant, réussir à en faire la publicité, de dire venez juger notre travail avec ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'on. Comment? Il y a quelque chose où c'est notre bilan, mais c'est notre bilan chiffré qu'on peut analyser comme on veut. Et on fait sa propre publicité, finalement, parce qu'on est nous-mêmes candidats. Et donc, prendre cette décision-là, c'est assez compliqué. Et même éthiquement, on est un peu jugé parti. Il y a quelque chose qui donc, à mon avis, il y a plus un cadre légal sur lequel on doit se référer que réellement essayer de se dire... Parce que sinon, on ne sortirait que les données sur lesquelles on est sûr... Par exemple, les données écoles. On a eu un financement de l'État énorme, etc. On est sûr qu'on va avoir un bilan génial. On peut faire un autre audit à la fin du mandat, mais ne pas en ouvrir d'autres sur lesquels on n'a pas investi. Donc pour moi, il y a un côté un peu conflit d'intérêts dans ce que vous dites, même si c'est l'un des objets, finalement, de l'open data. C'est l'une des grandes difficultés de ce sujet.
Je pense qu'il faut bien se dire que si les données ne sont pas produites, les gens vont les chercher, en fait, et avec des biais qui ne seront pas forcément, justement, qui ne permettront pas d'accéder à une donnée fiable et de qualité. Donc, il y a la gouvernance par la donnée, et il y a effectivement l'évaluation des politiques publiques par la donnée. C'est deux sujets différents. Alors, monsieur, je vous en prie, et madame ensuite.
Oui, bonjour, Hervé Grolier, je suis DSI à la Métropole de Lyon. Je suis aussi animateur du groupe Cité Plus, qui est le groupe des DSI des grandes villes et métropoles françaises. Je me permets une question un petit peu malicieuse. On a parfois des freins pour arriver à ouvrir des données. Vous avez évoqué les lampadaires, les silos à verre, etc. Mais il y a un sujet sur lequel on est assez régulièrement interpellé et sur lequel c'est en général un petit peu compliqué d'ouvrir les données. C'est vraiment des données de transparence. C'est les notes de frais des élus, les déplacements des élus, les présences aux instances. Voilà. Et donc ma question, c'est jusqu'à où vous poussez l'exercice de la transparence sur les données, parce que c'est effectivement un sujet sur lequel on est assez régulièrement interpellé en tant que DSI. Je vous remercie.
Ou quelle est malicieuse cette question. Non, mais...
Pas tant que ça.
Oui, pas tant que ça. Alors, ça va dépendre des collectivités, ce genre de choses. À la ville de Marseille, a priori, on est sur une ouverture. Surtout qu'on a juste à côté la ville d'Aix qui a ouvert aussi ses données sur les notes de frais. Et que bon, on va être plutôt à l'aise. Parce que...
tout le monde va être à l'aise à côté de ça.
Ne vous en faites pas. Aix a ouvert les leurs, vous pouvez ouvrir les vôtres. C'est pas... Il n'y a pas de problème. Mais oui, oui, ça fait partie du contrôle citoyen. Et d'ailleurs, j'aimerais que ce soit le cas et que ce soit systématique, parce que moi, je trouve que dans certaines collectivités, il y a des abus, clairement, et que ça permettrait justement de ne... Et puis, ça mettrait vraiment en conscience le fait à quel point, lorsqu'on respecte réellement les règles d'élus, on est mal remboursé, en fait. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a ces exagérations autour des notes de frais. Il y a quelque chose qui est, et le mettre en transparence, je pense que c'est aussi un levier pour éviter ces process. Non seulement d'un côté, parce que ça expose d'éventuels abus, etc., mais de l'autre aussi, parce que ça met en évidence que dans les collectivités locales, on a une problématique de financement du travail des élus. On a une vraie problématique autour de ça. Là, moi, je suis ici à prix coûtant, par exemple. Il faut le savoir.
Si je puis me permettre sur ce sujet, ça pose la question de quel personnel on mobilise pour alimenter en réalité ces données. Jusqu'où il faut aller en fait dans la finesse de l'analyse et donc mobiliser des personnes pour pouvoir produire ces données. Et puis c'est aussi la manière dont on va les présenter. Dans le bilan de Strasbourg en début d'année, on avait une annexe sur laquelle il y avait la rémunération de chaque élu, ce qui est absolument normal. Je me dis, mais mince, enfin, j'ai moins que ça normalement. Et en réalité, c'est parce qu'il y avait les remboursements des notes de frais qui étaient intégrés à la rémunération. Donc même moi, j'ai été un peu piégée en me disant, enfin, je trouvais ça pas très lisible en réalité, que le remboursement des notes de frais pour les déplacements, en représentation d'ailleurs, donc de la maire ou de la présidente, soit considérée comme une rémunération. Donc ça pose aussi la question de la manière dont on met à disposition ces données. Mais en effet, comme tu l'as dit, on peut être tout à fait à l'aise. Voilà. Je crois que c'était Jacqueline qui avait une question.
Oui, je voudrais revenir sur la question de la création de valeur ou de création de nouveaux services à partir de ces données qu'on ouvre. De mon point de vue, et sans être experte du sujet, je n'ai pas l'impression qu'on ait créé beaucoup de services à partir de ces données. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change de posture, nous, institutionnelle, et se positionner comme animateur, enfin, mobiliser l'écosystème pour créer de la valeur et de nouveaux services au service de nos usagers?
Bah, oui, oui, clairement. À la ville de Marseille, c'est surtout le côté culture et tourisme qui a un petit peu marché, parce que c'est utilisé par des sites, des applications, des choses comme ça. Mais oui, clairement, comme je disais, on a ouvert avec enthousiasme beaucoup de choses. Maintenant, permettez-moi l'expression, mais il va falloir capitaliser sur ce qu'on a ouvert, en faire quelque chose. On est assis sur une mine d'or, hein, que ce soit pour les associations, les entreprises ou les citoyens. Maintenant, comment réussir à justement en faire quelque chose, c'est un des sujets traités à Open Data France d'ailleurs, mais c'est une question qui est très très difficile en fait.
C'est une question qui est très difficile.
Merci.
Non, mais c'est un coût effectivement important que de mobiliser ces données. Nous avons l'obligation de les mettre à disposition. Mais derrière, il faut qu'il y ait une création de valeur. Donc, qu'il y ait peut-être ce chaînon entre la production de ces données, de ces jeux de données, et la manière dont les personnes vont pouvoir s'en emparer. Je vais vous demander à Rachel et à Christophe de bien vouloir peut-être nous donner quelques mots de conclusion sur ce que vous avez pu, même si les débats ont finalement pris une tournure différente et c'était bien, je trouve qu'on ait ce temps pour échanger. Donc je vais vous demander de faire une conclusion peut-être sur vos propres interventions, et puis je ferai ensuite un petit chapeau général, de manière à ce qu'on puisse, c'est bien, on a le temps de faire notre mot de fin, on n'est pas hyper stressé, donc c'est d'autant mieux, profitons-en. Rachel, est-ce que vous souhaitez commencer peut-être pour dire un mot de conclusion sur nos échanges?
Oui, bien sûr. J'ai été très attentive à tout ce qui a été dit et me rends compte que de notre côté, ma petite commune, on est encore loin de l'open data tel qu'il est pratiqué dans les plus grandes villes françaises notamment. Mais bon, c'est très intéressant. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. Mais comme je disais, le souci dans les plus petites communes, c'est plutôt un souci de financement. Et donc, on fait le travail avec les gens qui sont motivés, quoi. Et donc, voilà. Donc le message que j'ai envie peut-être de faire passer aujourd'hui, c'est finançons un peu plus les petites collectivités pour qu'ils puissent aussi être au même niveau que les plus grandes villes et qu'ils puissent partager toutes les données qui sont partageables, évidemment. Quitte à faire des mutualisations, parce que finalement, on n'a peut-être pas besoin de beaucoup de personnel à temps plein, mais peut-être qu'entre plusieurs petites communes, on pourrait partager une personne qui s'occuperait de ce type de données. Voilà.
Merci Rachel, votre intervention me fait penser qu'on est vraiment dans le thème de la semaine du numérique responsable, puisqu'on l'a intitulé « Les énergies du numérique responsable », et que là on voit bien avec l'exemple de la bruyère que ces énergies, elles sont avant tout humaines. C'est-à-dire que ce sont des gens passionnés qui vont avoir envie d'exploiter un peu leurs propres ressources parfois. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand on fait du numérique responsable, ça passe d'abord par, surtout, on va dire, par ces énergies humaines. Et puis, parfois même un peu sur l'énergie des élus, allez, j'ose le dire, puisque moi, en tout cas, je pense que je serai peut-être moins énergique dans d'autres délégations, c'est certain. Et l'autre élément sur vos propos, c'est qu'effectivement, la mutualisation est un levier indispensable pour les collectivités, surtout quand elles sont petites. Et d'où l'importance des rassemblements, des associations. Donc, Christophe, effectivement, vice-président d'Open Data France. Moi, je suis vice-présidente de Ville Internet. On est tous et toutes élus impliqués dans des associations qui vont permettre à un moment donné, c'est un peu l'objectif, des partages de bonnes pratiques, se sentir moins seul face à des problématiques qui sont techniques, et puis aussi aller développer. L'idée, c'est de faire des développements mutualisés pour réussir à faire en sorte d'y arriver, en fait, tout simplement. Donc, les énergies du numérique, l'humain, et puis la mutualisation de nos ressources. Christophe, Quelques mots. Jamais une intervention de 10 minutes n'a été aussi longue.
Oui, oui, mais bon, tu commences à me connaître. Bon, en tout cas, je commencerai par te remercier. Et remercier aussi, vous remercier tous. J'ai passé un excellent moment, j'ai adoré, je me suis beaucoup amusé et je pense que c'est le plus important. Et donc, en résumé, en fait, moi je pense que, et c'est un peu mon combat, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important, on en a parlé ici parce que c'est ce qu'on a fait, faire du sujet numérique, système d'information, transparence et open data en particulier, sortir de l'objet technique. Et vraiment faire un sujet politique, un sujet de débat, un sujet de discussion, un sujet d'interrogation, de pourquoi on le fait, comment on le fait. Et finalement, l'utiliser non pas seulement pour percevoir, avoir un levier économique ou appréhender la transformation, mais aussi pour définir la société numérique qu'on veut demain. Et donc, avec chacun de ces éléments, on a parlé de solidarité, on a parlé d'environnement, on a parlé de transparence, on a parlé d'éthique. Tout ça, il faut qu'on se le saisisse, comme tous les sujets politiques. Je vais prendre un exemple. Nous, à la ville de Marseille, on a le numérique responsable, on n'a pas les écoles responsables. Pourtant, on pourrait dire, mais les écoles, c'est que technique. On construit des bâtiments, on les entretient, et l'académie met des enseignants dedans. Voilà, on fait une carte scolaire avec la population. On pourrait voir ça de manière très mathématique. Mais dans notre culture, les écoles, c'est déjà un sujet qui est extrêmement politique, qui est extrêmement important. Et on va au-delà de ce qui est le minimum légal, des obligations techniques. Eh bien, il faut que le numérique, que pour le numérique, ce soit la même chose. Sans ça, on ne pourra pas définir la société de demain en son entièreté. Et c'est quelque chose d'extrêmement important.
Merci Christophe. Alors, maintenant, moi également, je vais m'essayer à une conclusion. Et qui sera peut-être une conclusion sous forme, alors pas de plaidoirie, hein, rassurez-vous, ou en tout cas je vais plaider par observation, c'est-à-dire quelques mots. Mais comme on est au Parlement quand même, j'ai envie de faire cette proposition, qu'on aille vers, et là je parle, je me saisis de l'angle des solidarités numériques, pour ne pas dire tout simplement des citoyennetés, qu'on aille vers un droit de cité numérique. Je m'explique, en tant que juriste, quand j'ai appris l'histoire du droit, on me disait, les Athéniens, au IVe siècle avant Jésus-Christ, avaient une conception de la citoyenneté où il fallait être né sur le sol pour avoir la citoyenneté et avoir le droit de vivre dans la ville. Puis ensuite, les Romains, c'est très différent, les Romains voulaient, eux, étendre leur royaume. Donc, vous aviez droit à la citoyenneté et le droit de vivre dans la ville, pourvu que vous le souhaitiez, que vous engagiez, en fait, pour le royaume, enfin, pour l'Empire. Et en fait, moi, j'ai baigné là-dedans, et ce que j'ai constaté aujourd'hui en étant élue au numérique, c'est qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient exclues de la ville. Et que je suis effectivement très circonspecte sur la question de Smart City, quand on se dit qu'une ville, que nous on va traduire comme intelligente, en réalité n'est pas suffisamment intelligente pour intégrer toutes les personnes qui ont besoin d'accéder aux services numériques, qui ont besoin d'exercer leurs droits, parfois les droits les plus fondamentaux. Donc, est-ce que disposer d'un jumeau numérique, est-ce que disposer, et je le dis avec un peu de malice moi encore, est-ce que disposer de merveilleux jeux de données accessibles au public suffit à faire d'une ville une ville intelligente ? Et je me dis que si, au niveau européen, on arrive à avoir des régions suffisamment intelligente pour mettre en place ce droit de cité numérique qui signifierait finalement que chaque humain va posséder des droits fondamentaux, ça c'est déjà le cas, dont l'exercice va pouvoir se faire, mais concrètement, par les réseaux dont les villes et les régions vont disposer et qu'elles vont pouvoir mettre à disposition, sans nécessairement faire appel à des opérateurs privés, à des éditeurs de logiciels privés, où on va pouvoir réinvestir la puissance publique et non pas seulement faire appel à des sous-traitances qui, peut-être à un moment, vont couper les vivres. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que pour avoir échangé avec certaines villes africaines qui me disaient, il y a 10 ans, on a accepté des solutions qui nous étaient livrées clé en main, parce qu'on était dans des régions difficiles, où il n'y avait pas suffisamment d'investissement pour les infrastructures, où c'était trop compliqué que de mettre en place des infrastructures pour pour permettre d'accéder à, notamment à Internet, que ce soit d'ailleurs par les réseaux souterrains comme par les antennes. Et donc, on nous a proposé, des sociétés privées nous ont proposé des solutions clés en main. Et c'était gratuit. Tout était gratuit. Et puis, à un moment, ils se sont retirés. Et là, on n'avait pas l'investissement possible. On n'avait plus l'argent pour payer les licences. On ne sait plus comment faire. Et donc, ce système-là, je pense qu'il faut le garder en tête. Et nous, au niveau de ces collectivités locales, de ces régions que nous sommes, il faut avoir conscience que la gestion de nos territoires à distance par des opérateurs qui sont parfois éloignés du bien commun, parfois ils en sont convaincus et parfois pas, ça peut faire courir un danger à nos villes en les rendant vulnérables parce qu'on va perdre une capacité de pilotage humain au cœur des villes. Voilà. Donc, s'appuyer sur des infras et sur des réseaux, c'est impératif. On ne peut pas tout faire tout seul, on n'en a pas les moyens. Mais quand même, garder à l'esprit qu'une ville intelligente n'est pas forcément qu'une ville qui va se reposer sur des opérateurs sans avoir conscience du fait que les citoyens et les destinataires des services doivent impérativement pouvoir s'en servir, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Donc, je vais terminer cette conclusion en militant encore pour la reconnaissance d'un droit de cité numérique qui serait acquis du seul fait d'être citoyen d'une commune et qui rendrait opposable à cette dernière le droit de ses habitants à exercer facilement l'intégralité de leurs prérogatives liées à leur citoyenneté de la ville, quelles que soient leurs compétences. Il faut que nos outils, on réussisse à les designer, à les produire, à les mettre en production, à les ouvrir au public, quelles que soient les capacités des gens. Le chemin est encore long, mais quand on est au Parlement, j'en profite pour avoir cette envie de prendre un peu de hauteur pour cette conclusion, et j'assume l'utopie. Merci à toutes et à tous. Je vous indique que Narmine va avoir la gentillesse de nous, si vous le souhaitez, de nous faire passer une tête dans l'hémicycle. Quand même. Donc, si vous le souhaitez, déjà, n'hésitez pas à prendre la documentation qui est à votre disposition là, et puis à suivre Narmine qui va nous guider vers l'hémicycle. Encore un grand merci pour être venu et nous avoir suivis à distance. Merci à toutes et à tous.